Carnet de campagne avec la CARAC, mutuelle d'épargne et de retraite engagée pour votre patrimoine. Rendez-vous sur carac.fr. France Inter.
Carnet de campagne, bonjour. Nous sommes toujours au contact des initiatives nées en Seine-et-Marne cette semaine. Celle de ce jour est plus une entreprise, la renaissance d'une entreprise qui a pris la concurrence des géants de l'industrie en pleine figure, qu'un projet alternatif. Martial fabriquait des meubles jusqu'au jour où il n'a plus eu les moyens de lutter. Pourtant, son histoire nous fournit une bonne raison d'espérer. Un exemple de grande solidarité dans le deuxième volet de ces carnets avec l'association La Sauvegarde du Nord qui, depuis près de 65 ans, aide les enfants et les jeunes en difficulté. La particularité de sa démarche est de solliciter des familles d'accueil bénévoles dans le cadre d'un programme pilote en France d'accueil durable.
Carnet de campagne. Le journal des solutions.
Martial Bécard, bonjour.
Bonjour Philippe Bertrand.
Merci pour votre courrier. Enfin, c'est pas vous, c'est Anne-Marie qui nous a écrit.
Et c'est mon épouse. C'est mon épouse qui s'occupe de beaucoup de communication dans l'entreprise. Ouais. Et voilà, on fait un bon duo.
Vous êtes l'exemple même des personnes, on parle beaucoup de résilience aujourd'hui, des personnes qui arrivent à sauver leur entreprise par un coup de génie à une période où la concurrence est très très forte, et en particulier absolument, lorsqu'on construit des meubles.
Oui, oui, on a failli, on s'est dit, allez, en 2004, on arrête tout, c'est trop dur, on a plus la capacité de produire des meubles pas chers, qui valent ce qu'ils valent, mais pas chers, donc on arrête tout. Et puis, je suis peintre en même temps, j'adore la peinture, j'ai créé donc mon ébénisterie, et j'ai allié les deux, et j'ai créé un meuble pour moi.
Donc ce meuble, c'est un meuble atelier où on a tout en un.
Oui, en fait, je suis parti de mon besoin en tant que peintre, quand on est à la maison, et quand on s'installe sur la table de la cuisine et qu'à midi, il faut ranger parce que les enfants arrivent et il faut que tout le monde puisse avoir la place. Bon, j'en avais marre, et j'ai créé un meuble qui rassemblait tout ce que j'avais besoin.
Mais vous êtes capable, enfin vous avez la possibilité, Martial, d'adapter ce meuble à chaque type de métier?
Alors, je suis parti d'une structure assez fixe, assez homogène, et puis on a fait beaucoup de salons pour faire découvrir notre concept. Et lors des salons, on a rencontré plein de passionnés qui se sont arrêtés devant nos meubles et qui ont dit « trouver ça génial ». Alors les peintres, pour eux, c'était ils avaient plus qu'à s'installer. Mais on a eu aussi les couturières, on a eu les encadreurs, on a eu un tas de personnes, de passionnés, et ils nous ont dit moi je veux un meuble, faites un meuble. Toujours sur même concept de meuble, j'ai adapté, et petit à petit, ça a fait des frères et sœurs, des commodes, des meubles plus grands, des meubles plus petits, et chacun en fait a une possibilité de choisir son agencement avec différents caissons, des modules de tiroirs, et voilà. Donc chacun compose son meuble.
Et de plus en plus d'hôpitaux et d'EHPAD vous contactent, car le meuble atelier sur roulette permet de balader cet atelier de chambre en chambre.
Absolument. Voilà, c'est une ouverture vers quelque chose qu'on n'attendait pas, une ouverture vers une utilisation inattendue de notre meuble.
Comme vous êtes de plus en plus sollicité, que vous gardez une échelle artisanale, soit vous freinez la production pour essayer de garder votre ligne et les prix grimpent, soit vous multipliez la production et ça veut dire que là, vous devenez semi-industriel.
Alors, j'ai un passé d'industriel, en fait, d'organisation, et j'ai vraiment conçu ce meuble de façon à avoir des pièces identiques pour plein de meubles différents, plein d'agencements différents. Et donc, j'ai une équipe super avec moi qui, on a organisé les choses pour pouvoir répondre très rapidement. Donc, je fabrique en petite série toutes mes pièces. Et au moment du contact avec le client, ils choisissent ce qu'ils veulent comme type de meuble et on agence en fonction de leurs besoins. Donc ça va très vite. Ça permet aussi de garder des prix tout à fait attractifs.
Ouais. Puis on revient quand même à un certain savoir-faire, une composition d'ateliers et de bureaux-ateliers qu'on trouvait chez des artisans. On peut trouver des modèles comme ça dans les vieux catalogues.
Absolument. C'est un peu c'est l'idée. Ma ligne n'est pas une ligne de type ancien mode, mais c'est une ligne très très fonctionnelle, qui est très belle aussi. J'ai beaucoup de retours de clients. Quand ils reçoivent le meuble chez eux, en fait, ils me passent un coup de fil souvent, ils me disent « mais je m'attendais pas à ce que ce soit aussi beau ». C'est le plaisir, c'est vraiment un grand plaisir de travailler dans la qualité, dans la durabilité.
Et Anne-Marie, dans son courrier, dit que les meubles sont 100% made in Normandie.
Eh oui, elle a raison. Je pense que toutes mes pièces, mes roulettes, etc. sont même fabriquées en France parce que j'ai demandé des certificats. Dire je veux être français, je veux fabriquer en France. Et donc, le être vient de la forêt d'à côté qui est à moins de trois quarts d'heure de chez nous. Enfin, voilà, c'est vraiment l'esprit de ramener et de garder surtout le savoir-faire en France.
Votre société s'appelle Au Bois en un seul mot, A-U-B-O-I, il manque un S.
Oui, il manque le S. Le S de... voilà, il manque le S et ça permet de parler de nous quand on pose la question pourquoi.
Le siège est à Osbosque pour la société Au Bois et l'adresse est aubois.com. Merci pour cette belle histoire et cette belle aventure,
merci.
Martial.
Eh ben, Philippe, je vous remercie de m'avoir permis de parler de mon meuble, le meuble atelier d'art, et vraiment, je vous remercie pour votre émission journalière. J'écoute presque tous les jours, mais j'adore votre information positive, et ça fait du bien.
France Inter, carnet de campagne.
On va continuer, évidemment. Le souci de bien s'alimenter sous forme collective continue à se propager en France. Au Havre, l'expérience a pris le nom de la mouette, née en 2017 dans la tête d'habitants du Havre qui souhaitaient changer leur mode de consommation. La coopérative, qui ne compte pas de salariés, mais uniquement des bénévoles actifs, peut se permettre de vendre des produits sans chercher à réaliser une marge. Devant le succès du magasin provisoirement ouvert rue Michelet dans le quartier d'Anton, au Havre, un déménagement est en cours de préparation. La Mouette a aussi un journal sur lequel vous pouvez, une gazette dans lequel vous pouvez trouver les nouveautés, comme les chantiers participatifs de rénovation du prochain local. Et vous pouvez encore rejoindre La Mouette et en échange vous aurez la réponse à cette question existentielle: quelle est la différence entre une mouette et un goéland? La Mouette, trait d'union, COP. Et puis dans un même ordre d'idées, toujours au Havre, en 2014 est née la MAP Panier & Co, Co, C-A-U-X, comme le pays de Co de Seine-Maritime. Les consommateurs à l'origine de cette activité entretiennent un blog aussi. Il y a un lien à nos pages d'émission. Nathalie Paille, bonjour.
Bonjour.
Merci de nous tenir au courant d'une réalité dont on parle assez peu, sauf les personnes concernées. C'est l'accueil durable et bénévole qui est né avec la loi du 14 août 2016, qui permet, par le président du conseil départemental, qui peut le décider, ainsi que le législateur, dans l'intérêt d'un enfant qui ne peut plus vivre avec sa famille, de confier celui-ci à un tiers. Alors ce sont des familles bénévoles qui peuvent prendre en charge l'éducation d'un enfant.
Voilà, ce sont des familles bénévoles, effectivement, et des familles qui ne sont pas professionnelles. C'est-à-dire qu'on ne recherche pas des familles d'accueil telles qu'on peut les connaître et qui accueillent un enfant qui est placé par un juge des enfants. Là, c'est vraiment autre chose. C'est-à-dire qu'on s'adresse à la société civile pour que des personnes qui souhaitent accueillir un enfant, répondre à ses besoins, l'accompagner, donner du temps, donner de soi aussi, puissent le faire. Donc sans être professionnel. Mmh. Et effectivement, ce sont des enfants qui sont soit pupilles de l'État, soit pour lesquels il y a une délégation d'autorité parentale, soit des enfants qui sont sous tutelle. Mmh.
J'ai pas mentionné, Nathalie, que vous étiez éducatrice spécialisée à la Sauvegarde du Nord, basée à Valenciennes.
Oui. On a foncé directement sur le projet.
Mais qui accompagne depuis 1957 les enfants, les adolescents, les jeunes en difficulté, et puis aussi les adultes éloignés de l'emploi, les familles et les personnes en grande précarité. Évidemment, association indispensable encore aujourd'hui, peut-être encore plus aujourd'hui. Mais dites-nous, Nathalie, jusqu'à présent, ces enfants qui ne pouvaient pas ou plus vivre avec leurs parents étaient confiés par le conseil départemental à des assistants familiaux agréés.
Oui, ou bien en structure, en foyer. C'est vrai, concernant les enfants, effectivement, ce sera plus des enfants qui sont actuellement en structure, ou bien des enfants qui risquent d'avoir un parcours un peu chaotique, comme on dit, c'est-à-dire structure ou famille d'accueil, puis ça fonctionne pas, alors restructure, vous voyez, ces choses-là. Et l'idée, c'est donc bien que des personnes s'engagent dans l'éducation d'un enfant sur donc du durable, c'est-à-dire sur la durée. L'idée étant que ils puissent s'occuper de l'enfant pour, avec le temps, nouer des liens, et des liens que l'on espère à un moment deviendront des liens d'attachement qui permettent aux enfants ces liens d'attachement d'aller explorer, d'aller apprendre, d'aller vers l'autre, enfin de grandir, quoi.
Nathalie, ça ne s'improvise pas de recevoir chez soi un enfant qui n'est pas le sien?
Non, bien sûr, ça s'improvise pas, mais il y a des gens qui ont cette fibre-là. On a déjà quelques personnes qui se sont mobilisées et qui nous disent, moi j'aime ça, accompagner un enfant, c'est quelque chose dans lequel je me retrouve et qui est important pour moi.
Et vous les préparez à cet accueil, c'est une énorme responsabilité.
Alors, bien sûr, vous vous doutez qu'on confie pas un enfant à des gens. On va aller à la connaissance des gens qui nous interpellent. On va effectivement faire ce que nous on appelle une évaluation. Aller chercher pourquoi, l'histoire, comprendre, connaître, pour aussi, c'est aussi par là qu'on pourra se faire confiance, nous envers les personnes envers nous, et c'est comme ça que les enfants pourront faire confiance aussi aux adultes. Et c'est à travers effectivement cette évaluation où bien sûr on va aller explorer la différence qu'il va y avoir entre l'enfant que les gens vont imaginer. Et puis l'enfant réel qui va être là et qui va peut-être pas répondre non plus à toutes les attentes. Et et tout ça, effectivement, on va permettre à projeter tout ça, à travailler sur ça. Et après, bien sûr, une fois que l'enfant est là, il y a une équipe de professionnels et on accompagnera les enfants et les familles sur ce chemin-là.
Et ce programme d'accueil durable et bénévole est pionnier en France chez vous?
Alors c'est le département du Nord qui l'a démarré. Le Pas-de-Calais a priori le démarre aussi, mais on est les deux régions qui effectivement se lancent.
Vous avez une réunion publique dans quelques jours?
Alors oui, le 10 décembre à 19h à l'espace Solidarité de Hanon. On a une réunion d'information pour répondre aux questions, pour expliquer avec des outils que l'on a, plus le projet. Et puis donc toutes les personnes qui sont sensibilisées par ce projet sont les bienvenues.
Merci pour cette belle, grande initiative, l'accueil d'un enfant sur le long terme dans des familles d'accueil. Merci Nathalie.
Mais merci d'avoir été notre porte-voix.